Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur Abraham et les deux rois dans Genèse chapitre 14 et le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas « J'ai enrichi Abraham ». Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Amen. Dans ce récit, Abraham est confronté à deux personnes différentes. La première, c'est le roi de Sodome. Le roi de Sodome est une image de l'adversaire, de Satan lui-même, qui vient pour tenter, pour éprouver les enfants de Dieu. Et il apporte avec lui des malédictions. Le deuxième personnage s'appelle Melchisédek. Il est roi de Salem et lui, c'est une image de Christ. Et il vient avec les bénédictions de Dieu. Il y a toujours ces deux rois qui existent encore aujourd'hui. Ils sont toujours présents et ils viennent toujours soit avec des malédictions, soit avec les bénédictions. Il y a deux destinées qui sont devant nous. Regardez Deutéronome chapitre 30, verset 19. C'est exprimé ainsi dans ce récit. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Ainsi, vous devez choisir quel roi vous voulez servir. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. On est pour lui, soit on est contre lui. Si vous n'avez pas encore choisi de suivre Jésus, qui est le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est le sacrificateur, qui est Melchisédek, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie et que vous suivez un autre roi, qui est le roi de Sodome, qui est Satan. Le premier point, c'est la victoire d'Abraham au verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Abraham, il faut rappeler le contexte, a été entraîné dans un combat à cause de Lot, son neveu. Lot, qui est l'image, lui, du chrétien faible, du chrétien charnel, du chrétien attaché aux choses du monde. Et effectivement, Paul nous avertit que dans l'Église, il y a des chrétiens forts et des chrétiens faibles. Romains chapitre 15, verset 1. Il dit « nous qui sommes forts », donc il fait référence à ceux qui sont matures spirituellement, à ceux qui marchent dans les voies de Dieu, « nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît ». Et ainsi, on voit que dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui étaient encore attachés aux choses terrestres et qui jugeaient selon l'apparence, qui avaient un comportement qui n'était pas à la gloire de Dieu. C'est le pasteur Martin Luther King qui disait « Dans mon église, j'ai deux sortes de chrétiens. J'ai des chrétiens qui sont thermomètres et j'ai des chrétiens thermostats. » Les chrétiens thermomètres, il disait, c'est ceux qui évoluent en fonction de l'ambiance. Quand tout va bien, ben, ils sont sur un petit nuage et ils louent Dieu. Et puis quand tout va mal, ils descendent au troisième sous-sol. Ils sont complètement découragés, abattus. Ça, c'est les chrétiens thermomètres. Ils fluctuent en fait en fonction, leur morale fluctue en fonction des événements. Et puis il dit « J'ai des chrétiens thermostats ». Les chrétiens thermostats, ils gardent la bonne température. Et quand la température baisse, alors ils enclenchent la prière pour rester au niveau spirituel. C'est ça que nous devons viser, être toujours proche de Dieu, chercher le Seigneur et être dans la foi. Lot, lui, a attiré la malédiction sur sa vie. Pourquoi ? Car il ne vit pas selon les principes de Dieu. On ne le voit jamais prier. C'est toujours Abraham qui bâtit un autel à l'Éternel, qui consacre du temps à Dieu. C'est vrai que Lot suit Abraham, mais il vit sa foi par procuration. Il s'appuie sur la foi d'Abraham. Mais lui, on ne peut pas dire qu'il a exercé vraiment une grande foi. Il a fait des choix aussi qui ont révélé sa nature charnelle. Quand il a vu Sodome et Gomorre, il était attiré par ces villes qui étaient des villes de péché. Il ne voyait pas les réalités spirituelles derrière ces villes, c'est-à-dire c'était des villes dangereuses pour lui. Et il s'est lié par des compromis. Si vous regardez son histoire, il a commencé par s'approcher dans la plaine, mais pas encore dans la ville. Mais il était dans la direction de Sodome et Gomorre. Puis, il est arrivé jusque proche de la ville, mais il n'était pas encore dans la ville. Vous voyez, petit pas par petit pas, il avance. Mais il avance dans la mauvaise direction. Et puis, à la fin, on le voit à la porte de la ville, c'est-à-dire là où on échange, là où il y a le trafic. Et regardez le psaume 1, verset 1. On dirait que Lot a vécu ce psaume à l'envers. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. » Alors, le mot « méchant », c'est traduit autre part « sans foi ni loi », c'est-à-dire celui qui méprise Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Voyez les premiers versets, on dirait que Lot, il a vécu l'inverse. Lui, il s'est mis à marcher selon le conseil des gens sans foi ni loi, c'est-à-dire des païens. Il s'est arrêté sur la voie des pécheurs. Il s'est assis, et c'est là qu'on le retrouve assis à la porte de la ville, en compagnie des moqueurs. Donc, il a fait tout le contraire de la parole de Dieu. Et quand vous faites tout le contraire de la parole de Dieu, vous attirez sur vous les malédictions. Et c'est là où l'ennemi agit et utilise tout cela contre vous. Vous ne pourrez jamais avancer dans une vie de compromis, c'est-à-dire le chemin de Lot, il mène à l'échec, il mène à la séparation avec Dieu, il mène aux tourments et aux souffrances que Lot va connaître par la suite. Dieu, au contraire, il nous veut entièrement pour lui. Il nous veut consacrer, c'est le sens du mot saint, c'est-à-dire mis à part, c'est-à-dire séparé de la mentalité du monde et de ses plaisirs, comme Abraham, qui a préféré rester proche de Dieu dans la montagne plutôt que de se lier avec le compromis à Sodome et Gomorre. Abraham, lui, donc, a attiré la bénédiction. Pourquoi ? Parce qu'il a appliqué dans sa vie les principes de Dieu. Il est vainqueur des quatre rois, donc c'est le début du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois, ça faisait quatre rois qui s'étaient ligués pour attaquer le roi de Sodome et ils ont entraîné Lot avec lui, Lot et sa famille. Et donc, c'est Abraham qui est venu au secours de Lot, qui était perdu, qui n'avait aucune issue. Heureusement qu'il y avait ici un homme de Dieu qui se tenait dans la présence de Dieu et qui a pu réagir. Mais si vous appliquez les principes de Dieu dans votre vie, vous serez comme Abraham, vous obtiendrez des victoires sur le plan spirituel. Paul cite un certain nombre de souffrances par lesquelles nous passons. C'est dans Romains chapitre 8. Il dit « Parfois on passe par les tribulations, on peut passer par les angoisses. » Il dit « On peut passer par les persécutions, par l'opposition, par les périls, par la faim. » La liste est longue. Mais il termine en disant, c'est au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, dans quelles choses ? Tribulation, angoisse, persécution, faim, etc. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Il y a un paradoxe ici entre la réalité de ce que Paul décrit, que nous vivons, qui sont les angoisses, les persécutions, la faim, les tribulations. Et il dit en même temps, malgré cela, puisque nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà la position d'Abraham, enfant de Dieu, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et c'est encore dit dans l'Apocalypse, si vous lisez le début de l'Apocalypse, à chaque fois c'est dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. À celui qui vaincra, c'est répété plusieurs fois, 7 fois exactement dans l'Apocalypse. Donc si vous êtes en Christ, vous avez reçu une armure spirituelle pour le combat, pour vous mener vers la victoire. Mais c'est très important d'aller au combat avec les armes de Dieu. C'est un petit peu comme un pompier. Si vous êtes pompier, mais que vous n'avez pas revêtu votre vêtement de pompier, vous ne pourrez pas aller dans le feu. Imaginez que vous êtes pompier, mais vous allez avec un costume. Vous allez avec un costume dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre costume, il va s'embraser. Parce que ce n'est pas le vêtement approprié. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Si vous allez combattre, mais vous n'avez pas le vêtement. Si vous allez combattre, mais vous n'avez pas les armes de Dieu, c'est-à-dire les armes, c'est quoi les armes ? Elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Alors, petite révision, c'est quoi les armes que nous avons à notre disposition ? Nous avons le casque du salut, pour nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. Nous avons la cuirasse de la justice, oui, n'hésitez pas, la cuirasse de la justice, parce que nous sommes justifiés par la foi. Et puis nous avons le bouclier de la foi, et il sert à éteindre les traits enflammés, c'est-à-dire les flèches que l'adversaire tire en permanence sur les chrétiens. Mais si vous n'avez pas le bouclier de la foi, les flèches vont vous atteindre. Et puis nous avons la ceinture de la vérité. La vérité, parce que nous devons marcher dans l'intégrité des choses de Dieu. Nous avons aussi les chaussures du zèle de l'Évangile pour témoigner, pour parler du Seigneur autour de nous. Et puis, nous avons l'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit qui nous permet de combattre l'adversaire, c'est la seule arme offensive. Et quand vous citez la parole de Dieu, vous utilisez l'épée de l'Esprit. Donc, cette panoplie du soldat, du chrétien, on ne la voit pas, elle est invisible, mais elle est réelle. Ce n'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas. Quand vous priez, quand vous êtes dans la foi, vous êtes revêtu de cette armure. Et c'est les armes spirituelles que nous devons utiliser. Évidemment, nous devons les utiliser dans la foi et croire que le Seigneur agit et croire que nous combattons en son nom. Donc Abraham a été vainqueur parce qu'il avait les armes spirituelles, parce qu'il était selon les principes de Dieu. Maintenant, il y a un premier roi qui vient vers lui, c'est au verset 17, c'est le roi de Sodome. Le roi sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Le roi de Sodome se présente en premier. Le roi de Sodome n'aime pas quand un chrétien remporte des victoires, n'aime pas voir un chrétien qui loue, n'aime pas voir un chrétien qui combat. Et donc, il va venir pour essayer d'anéantir sa fougue. Immédiatement après la victoire, le roi de Sodome se présente. On a dit c'est une image de Satan lui-même. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour Jésus lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. À l'issue de ces 40 jours, à nouveau, l'ennemi s'est présenté devant Jésus pour le tenter dans le désert. Ça a été un échec. On sait comment Jésus a remporté la victoire. Mais quand le diable a un échec, qu'est-ce qu'il fait ? Il part un petit moment, mais il revient un peu plus tard. Il revient à une occasion plus favorable, dit la parole de Dieu. Il sait qu'il y a des occasions, ça ne va pas le faire, et il se dit, peut-être qu'à un autre moment, je vais essayer d'un autre côté, quand la personne sera plus fragilisée, plus faible. Et il a essayé par Pierre, l'apôtre Pierre, lorsque... Pierre a fait une belle déclaration à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en fait, peu de temps après, l'ennemi a utilisé Pierre pour donner des paroles à Jésus en lui disant, quand Jésus parlait de la croix, cela ne t'arrivera pas. Et là, l'ennemi essayait encore d'attaquer sous un autre angle. Et là encore, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc il a vu l'attaque spirituelle. Mais voyez que l'ennemi, ce n'est pas parce qu'il a eu une défaite qu'il va lâcher comme ça. Il va essayer de revenir, puis après il va tenter encore d'autres manières. Donc il nous faut être constamment vigilants. C'est pourquoi Jésus nous a dit « veillez et priez ». On ne peut pas dire « ça y est, bon, j'ai prié, maintenant jusqu'au retour du Seigneur, je serai tranquille ». Non, l'ennemi, lui, il cherchera toujours des accès. Ça, c'est le roi de Sodome. Donc le roi de Sodome, vous avez une belle victoire, tout va bien, merci Seigneur, Dieu béni. Mais il vient quand même, il vient pour... égaré pour séduire, parce que lui, il veut les personnes. Regardez ce qu'il dit, c'est au verset 21. Le roi de Sodome, il dit à Abraham, donne-moi les personnes. Littéralement, c'est « donne-moi les âmes ». Voilà ce qu'il veut, le roi de Sodome. « Donne-moi les âmes et prends pour toi les richesses. » « Donne-moi les âmes », ben, ça, c'est ce que désire le plus le diable. Il veut les âmes pour augmenter son royaume. Si on regarde la terre, on compte combien d'habitants il y a sur la terre, ça n'arrête pas d'augmenter. On est à un peu plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Mais combien de chrétiens dans ces 8 milliards d'habitants? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si on regarde les 8 milliards d'habitants, si on regarde les statistiques, 2,5 milliards de chrétiens. Et quand je dis chrétiens, c'est très large. Catholiques, protestants, orthodoxes, tout compris. Ça fait à peu près un tiers. Un tiers de chrétiens. Ça veut dire qu'il y a 70% qui ne sont pas du tout chrétiens, qui ne connaissent pas Dieu, qui prient d'autres religions, qui sont complètement à côté. 70%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, ces âmes-là, elles sont sous la domination du malin. C'est son royaume. Il étend son royaume là-dessus. C'est Jésus qui dit comme ça dans Actes 10, 38. Il dit, c'est l'empire du diable. Il parle de cet empire-là que le diable a bâti, mais que Jésus est venu pour détruire cet empire-là. Et il sait qu'il a peu de temps et il séduit encore les nations. Donc, le roi de Sodome, il propose à Abraham un compromis. Il dit, donne-moi les âmes, parce que lui, il veut les âmes, il veut étendre son royaume. Et puis, il dit, prends pour toi les richesses. Alors là, frères et sœurs, nous serons testés sur notre intégrité. Abraham applique ici le principe de l'intégrité. C'est d'ailleurs une des raisons de son succès, parce qu'il est éprouvé sur la tentation des richesses et il ne va pas faire de compromis avec l'adversaire de nos âmes. Parce que dans chaque cœur humain, il y a toujours cette soif de posséder, d'avoir des biens matériels, des richesses. Et certains s'appuient dessus comme si c'était une idole. Et ça, c'est un piège pour les chrétiens. L'argent n'est pas mauvais en soi, mais s'il devient une idole, il devient très mauvais, très nocif, parce qu'on s'appuie davantage sur l'argent que sur Dieu. L'argent n'est pas un problème, puisque Abraham était très riche par ailleurs, il avait des biens matériels, mais il ne s'appuyait pas sur ses richesses pour suivre Dieu. Il s'appuyait sur sa foi, sur sa confiance. Et c'est tellement vrai que, si vous regardez dans le monde, il y a des gens qui ont tellement accumulé des richesses, qui ont mis tellement leur espoir dans ces richesses, que le jour où il y a eu un krach, une baisse financière, c'est-à-dire en 2008, il y a eu des crises financières énormes, des gens ont perdu beaucoup, des millions d'euros, et bien certains se sont suicidés parce qu'ils ne voyaient plus leur argent. Par exemple, un homme qui s'appelait Adolf Merkel, qui était pourtant un des plus grosses fortunes d'Allemagne, un industriel allemand, il avait quand même 9 milliards d'euros, donc je pense qu'avec 9 milliards d'euros, on voit venir, 9 milliards d'euros il avait. Il a perdu 400 millions, c'est énorme 400 millions, mais il vous reste quand même un bon pactole. Mais lui, quand il a perdu dans la crise 400 millions, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est monté à l'esprit, il s'est donné la mort parce qu'il avait perdu ses 400 millions. Alors qu'il ne voyait pas qu'il lui restait 8 milliards 6. C'est quand même incompréhensible. C'est pour montrer que derrière ça, il y a quand même un esprit mauvais qui pousse les gens à se supprimer pour des pertes, alors que finalement, même s'il avait perdu 9 milliards, est-ce que ça valait la peine de supprimer sa vie pour 9 milliards? Imaginez, vous avez 9 milliards en banque et vous perdez tout du jour au lendemain. Est-ce que vous allez vous supprimer parce que vous avez perdu 9 milliards? Moi, personnellement, non. C'est pas grave. Parce que ça, c'est de l'argent. Mais notre vie, elle a plus de valeur que 9 milliards. Vous voyez, il n'avait pas compris que sa vie, elle avait plus de valeur que tout ce qu'il avait accumulé dans ses comptes en banque. Et quand on n'a pas compris ça, en fait, comme cet homme, on est poussé par un mauvais esprit. On ne comprend pas que l'argent, c'est qu'un outil, c'est qu'un moyen, mais que ce qui compte, c'est la vie spirituelle et c'est notre vie avec Dieu. Et ça, c'est terrible parce que c'est des gens qui... Et ça n'est qu'un exemple, hein, quand il y a eu ces grandes crises. Plusieurs ont préféré se supprimer plutôt que de voir leur perte financière. Quelle erreur! Donc, Abraham a été éprouvé Est-ce qu'il allait accepter des richesses de compromis ou pas? Non, il a pris position. Et la proposition du roi de Sodome pouvait paraître intéressante parce que il dit « prends pour toi les richesses », c'est-à-dire c'est un peu comme une bénédiction, tu vois, tu vas avoir plus de biens, tu vas être plus tranquille, tu vas pouvoir faire plus de projets. C'est un petit peu comme un avantage. Certains auraient dit bah, « pourquoi refuser finalement, puisque on aura plus de confort, on aura plus de biens matériels ». Mais Abraham avait trouvé mieux dans Genèse 15.1 parce que Abraham comptait non pas sur ses biens matériels pour sa sécurité, mais il comptait sur le Seigneur. Genèse 15.1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Voilà ce qu'Abraham recherchait. Non pas les richesses terrestres, les biens matériels comme le roi de Sodome ici, va dans ce sens. Il pousse Abraham dans ce sens. Non, il dit « moi j'ai un bouclier spirituel, moi j'ai une récompense qui sera très grande parce que mes valeurs sont ailleurs. » Et Abraham prend position, vous voyez, regardez le verset 23, il est très ferme. Verset 23, il dit « je ne prendrai rien », il parle au roi de Sodome ici, « je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas « j'ai enrichi Abraham ». Il ne voulait pas de compromis avec l'adversaire. Alors vous serez certainement éprouvé dans votre intégrité. C'est à vous d'être ferme. Soyez résolu. Et si vous ne parlez pas avec fermeté à l'ennemi comme Abraham ici, c'est l'ennemi qui vous poussera dans la mauvaise direction. Donc c'est à nous de prendre position spirituelle. Je termine avec le dernier exemple, c'est Melchisédek. Le dernier personnage, c'est le roi de justice. Melchisédek, roi de Salem, alors roi de justice, Salem ça veut dire paix en français, Shalom en hébreu, roi de paix, on sait que le roi de justice et le roi de paix, c'est Jésus. On l'a dans Hébreu chapitre 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Vous voyez que ce Melchisédek, il vient avec la bénédiction. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. D'ailleurs, ici, on a une exception dans la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a aucun roi qui a été à la fois roi et sacrificateur. C'était interdit dans les principes de Dieu de relier dans une même personne ces deux offices qui étaient complètement séparés dans l'Ancien Testament. Et on a une exception ici, c'est le seul cas, c'est Melchisédek, dont il est dit qu'il était à la fois roi et à la fois sacrificateur. Et c'est donc ce type, Melchisédek, qui va être utilisé par l'auteur aux Hébreux pour dire c'est une image de Christ qui est à la fois roi et sacrificateur. Seul Christ pouvait cumuler ces deux fonctions. Et notez qu'il vient avec du pain et du vin, au verset 18. Et on peut rappeler le pain et le vin que Jésus va lui-même distribuer le soir de la dernière Pâque. Il annonçait ainsi prophétiquement la nouvelle alliance en son sang. Jésus a payé notre rachat à la croix. Donc Melchisédek vient avec la bénédiction, ça c'est au verset 19. On a dit que le roi de Sodome, il vient avec des malédictions, mais Melchisédek, il vient avec la bénédiction. Certains subissent des malédictions depuis leur enfance. C'est vrai qu'ils n'arrivent à rien dans la vie, leur situation est bloquée, au travail c'est bloqué, dans leur famille c'est bloqué, tout est bloqué. Il y a des malédictions qui ont été semées, mais si vous venez en Christ, les malédictions, elles vont disparaître parce que Jésus va vous donner la bénédiction qui vient d'en haut. Donc toutes les pensées mauvaises, je n'y arriverai pas, je ne m'en sortirai pas, je suis condamné à l'échec, je suis né sous une mauvaise étoile. On entend ça des fois, je suis né sous une mauvaise étoile. Non. Quand vous venez en Christ, il y a Melchisédek qui vient, il vous apporte le pain, le vin, il vous apporte la bénédiction. Et Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà le discours de Jésus. Dans le psaume 107, il est dit, c'est Dieu, il a brisé les portes des reins. Et il a rompu les verrous de fer. C'est-à-dire qu'en Dieu, toutes les chaînes tombent, tout est possible. Abraham donne à Melchisédek la dîme de tout. On voit ce principe de la générosité. On voit que Abraham était très riche, mais il était très généreux. Et il a compris que tout vient de Dieu. Et c'est vrai que utilisé pour Dieu, pour sa gloire, de manière appropriée. Abraham se situe avant la loi de Moïse. Et on voit que lui-même applique le principe de la dîme. La dîme est donc un principe spirituel qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais qui est plutôt une loi qui est écrite dans les cœurs. Il n'y avait pas de loi qui disait à Abraham de dire bah, « il faut que tu donnes ta dîme ». Non, c'est quelque chose qu'il a fait de son cœur. Donc la dîme est plutôt un principe spirituel et elle appelle la bénédiction. Il s'agit d'abord d'une conviction personnelle, pas quelque chose qu'on peut imposer. Mais Abraham en a eu la conviction et il l'a appliquée dans sa vie. Et regardez ce que Jésus dit au Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » C'est-à-dire que Jésus s'intéresse d'abord à la manière dont on vit notre foi, justice, miséricorde, fidélité, voilà ce que Jésus veut voir dans nos cœurs. Mais il dit qu'il ne faut pas négliger les autres choses, c'est-à-dire ben, ce qui revient à Dieu, la dîme. L'important, c'est d'abord l'attitude de cœur. Alors en conclusion, on a vu ici deux rois, deux personnes qui sont venues à la rencontre d'Abraham. Il y a devant chacun de nous la même chose, c'est-à-dire il y a la bénédiction avec Melchisédek, c'est le roi de justice, le roi de paix, c'est Jésus. Et puis, il y a la malédiction avec le roi de Sodome. Les choix que nous faisons appellent soit la bénédiction, soit la malédiction. Lot, lui, il a clairement choisi Sodome. Il a choisi d'aller habiter sous la couverture du roi de Sodome. Et ben, sa vie de compromis, sa vie de chaotique, sa vie misérable en a été la conséquence. Abraham, lui, a choisi Melchisédek, c'est-à-dire le roi de justice, Jésus. Eh bien, il en a eu la bénédiction dans sa vie, principe, bien sûr, d'obéissance. Il a été intègre, il a exercé la générosité. Et la bénédiction ou la malédiction ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est le résultat de nos choix. Si nous choisissons la bonne personne, nous serons bénis. Si nous choisissons Jésus, mais si nous choisissons la mauvaise personne, c'est-à-dire le roi de Sodome, eh bien, nous serons sous son emprise. On va prier quelques instants, que Dieu nous conduise pour faire le bon choix et de suivre toujours Jésus, notre Sauveur. Merci encore pour ta parole qui nous avertit de ces pièges, de ces dangers qui existent et nous voulons être vigilants, prier chaque jour, veiller, prier comme tu nous l'enseignes. Et nous voulons toujours suivre notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, celui qui nous a rachetés de la mort, qui est venu avec du pain et du vin, qui est venu avec la bénédiction de la croix. Seigneur, c'est toi que nous voulons suivre et servir tous les jours de notre vie. Comme Abraham a fait ce choix, Seigneur, nous voulons aussi choisir de te servir et de te mettre toujours à la première place, refuser tous les compromis avec le monde, avec ses désirs et ses passions, et te servir encore davantage parce que tu en es digne. Oui, reçois toute l'adoration, à toi toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.